Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La plante du diable. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Je suis pas. Les jeunes disent, ça ne vous regarde pas. Occupez-vous de ce qui vous regarde. Elle s'y se regresse et que lui aussi. Mathieu reste debout, inerte. Elle s'y va vers la table où se trouvent des bouteilles et les balance. Sur les jeunes. Gilbert et Frédéric cognent de toutes parts. Des jeunes épuisés, ensanglantés, sortent de la pièce. Elsie dit à Gilbert et Frédéric, merci, vous êtes de chic type. Je lui dis, c'est normal, il faut que l'on s'entraide entre surhommes. Elsie, vers Mathieu, toujours hébété, l'enlance et lui dit il est complètement ivre. Qui lui dit ivre mort, l'entend des pas. J'ai dit il vient certainement avec du renfort, je vais partir de suite. Elle s'y fait comment? Je lui dis par la fenêtre, vite. Il court vers la fenêtre, l'ouvre, elle donne du côté arrière de la maison, c'est au rez-de-chaussée. Vite, il aide Mathieu à sauter par la fenêtre. Et ils sautent aussi. Tout se passe très vite. Ils ont tout juste le temps de sortir que la porte du salon s'ouvre. Et les jeunes gens rentrent. C'est André et Henri. André dit, ils vont payer tous ces dégâts, je te le jure. Et aussi saute par la fenêtre. Puis leur court après. Alexis et ses amis ont de l'avance. Ils font le tour du jardin parce qu'ils ne trouvent pas la sortie au milieu de tous ces champs. Ils ne savent pas où ils sont. André leur court après. Ils vont sortir de la propriété et courent sur la route. Au bout d'un moment, Gilles dit, prenons une voiture qui est garée. Ils vont vers la voiture. Ils vont vite parce que les autres arrivent. Enfin, ils trouvent une voiture blanche, décapotable et ouverte. Gilles saute dans la voiture, leur dit, allez, montez. Ils sautent tous. Alexis aide Mathieu qui est toujours dans les vagues. Gilles prend un tournevis pour défaire la plaque de devant, du bas, et pour mettre la voiture en route, prendre les fils électriques, etc. Il a l'habitude de ce travail puisqu'il le fait constamment lorsqu'il prend une voiture. Les autres sont tout prêts. Gilles dit, Frédéric, à la crête-clé. Frédéric sort de sa poche, de sa veste, une petite bombe. Et il la jette. La bombe, en tombant, dégage de la fumée. Et elle paralyse les poursuivants. Gilles a réussi à mettre la voiture en route. Sur la route. Nous en sommes sortis. Et il lui dit. Ils vont nous dénoncer pour la voiture. Gilles lui dit. Nous la remettrons sur le parking. Et s'ils nous dénoncent, nous nous attaquerons pour avoir voulu violer votre ami. Nous sommes des Minus. Nous sommes les amis des Francs Blancs. Ma mère travaille pour eux. Et si vous les connaissez, lorsqu'on est ami des Francs Blancs, on est intouchable. Et la voiture file sur la route. Mathieu est toujours dans les vapes. Alexis n'a pas repris ses esprits. Frédéric dit, des salauds, faire ça à des gens comme vous. Et s'il lui dit, j'ai de la peine à te reconnaître. Lorsque tu étais un grand lit, tu n'étais pas comme ça. Et là, tu dis, je suis resté le même, mais j'ai repris mes forces. T'as des nouvelles de Didier? Et s'il lui dit, non, il a dû se faire prendre. Et lui dit, Didier était un Minus. Et là, tu dis, il m'a aidé. Frédéric dit encore, ce salaud, s'attaquer à des gens comme nous. Comme nous, les surhommes. Après un moment, Gilles demande, nous allons où? Et il lui dit, tu nous ramènes chez nous. S'il te plaît, bien, ne voulez pas faire une virée avec nous? Et s'il dit, Mathieu est malade. Et Gilles les ramène chez les Perret. Il va arrêter la voiture devant la ferme. Il sort de voiture et dit, c'est pittoresque. Et il dit, le propriétaire aussi. Mais ils sont pauvres, j'ai lui dit. Ils le sont tous. Et Alexis et Mathieu leur disent au revoir. Gilles remet la voiture en route. C'est. Alexis et Mathieu vont rentrer dans la maison. Mathieu n'a toujours pas repris ses esprits. Alexis sonne à la porte. De la lumière à la fenêtre du premier. Elle s'ouvre. Apparaît un maillot de corps, Jules. Jules dit, je descends. Ferme la fenêtre. Alexis maintient Mathieu pour qu'il ne tombe pas. La porte s'ouvre. C'est Jules en maillot de corps et slip. Il leur dit, entrez. Ils entrent. Ferme la porte. Et leur dit, faites pas de bruit, elle dort. Puis il voit Mathieu, il demande, qu'est-ce qu'il a? Et il lui dit, il a un peu bu. Je lui dis, beaucoup, il faut le jeter dans le bassin. Et il lui dit, pas la peine, je vais le coucher, et ça ira mieux demain. Et ils maintiennent Mathieu pour lui faire monter les escaliers. Jude l'aide. On le mène jusqu'à la chambre. Alexis ouvre la porte et dit, merci, ça pourra aller. Vous en êtes sûr? Oui, merci. Et Jules retourne à sa chambre. Alexis va poser Mathieu sur une chaise, sur le rebord du lit. Puis, va fermer la porte. Il retourne vers son ami. Il lui dit, t'es dans un drôle d'état. Mathieu ne dit rien. Alexis prend dans son sac de voyage une bouteille d'alcool de menthe, et une serviette. Il met l'alcool de menthe sur la serviette et suit le visage de son ami. Le visage et les bras. Puis, il défait ses chaussures. À le déshabiller. Ce n'est pas facile parce que Mathieu ne l'aide pas et qu'il est tout mou. faim, il est au lit. Il est en slip, je veux dire. Aïtsi ouvre le lit et l'allonge. Épuisé. Mais aussi, je prépare pour aller se coucher. Il se déshabille. Il se couche. Éteint la lampe de chevet. Il se dit, quelle soirée ! Une fille qui me traite de pédé, un garçon qui veut me draguer et me plotte, Mathieu qui se fait violer, la bagarre, la fuite en voiture. Ça suffit pour cette nuit. Il a mal de partout, des courbatures causées par la bagarre et la peur. Il se dit qu'il aurait mieux fait, c'est de ne pas aller à cette soirée. Et Mathieu est complètement ivre, ivre mort. Mathieu ne bouge pas, il dort. Alexis arrive à s'endormir. Il est réveillé par la lumière du jour. Il est encore un peu fatigué. Il regarde Mathieu qui dort. Ému. On a frappé à la porte. Oui, vous êtes réveillé ? C'est Jules. Il dit oui. Bon, vous déjeunez à la cuisine ? Oui, j'arrive. Il soupire. Il se lève. Je couds Mathieu pour le faire réveiller, mais il n'y arrive pas. Mathieu dort toujours, et très bien. Et s'il soupire, il s'habille. Il sort de la chambre pour aller à la cuisine. Là, il retrouve les Perret. Il dit bonjour. Et s'assoit. Maria demande, ton copain ne vient pas ? Il dit non, il dort encore. Je lui dis, il a eu une cuite du tonnerre. Marie lui dit, je savais qu'il fallait pas qu'ils aillent là-bas. Je lui dis, faut bien que jeunesse passe. Maria sert le café. Merci. Elle s'assoit à table. Il dit, qu'est-ce qui fait chaud ce matin? Il n'y a pas d'air. Les oiseaux et les insectes sont tout excités. Je lui dis, oui. C'est pas normal cette chaleur. C'est comme en été. Où se fait rare. Et elle a un drôle de goût. Elle lui dit, faudra, c'est peut-être voir s'il n'y a pas un rat qui bouche la conduite. Je lui dis, J'irai voir ça. Elle est si dégoûtée. Marie dit. Je me sens toute bizarre. Je lui dis, c'est la chaleur. Et lui, j'ai la tête qui me tourne. Je vais aller m'allonger. Je la regarde. C'est bien la première fois qu'elle va retourner se coucher et qu'elle n'est pas bien du tout. Il lui dit, tu veux te l'élixir du bon docteur Morel? Elle dit, tu sais très bien que c'est pour les jeunes mariés, pour leur donner de l'appétit. Il lui dit, ça sert pour tout, moi-même, pour mes varices. Et puis c'est bon, ça ne fait pas de mal, il n'y a que 90 degrés. Et c'est fait avec des plantes, la montagne de Hauteville. Elle lui dit, bon, je vais m'allonger. Et elle sort de la cuisine. Jules dit à Alexis, c'est bien la première fois, depuis que l'on est marié, qu'elle n'est pas bien. Alexis lui dit, ça ne doit pas être bien grave, la chaleur. Mais moi-même, je manque un peu d'air. Je lui dis, oui, ça doit être ça. Et il continue à prendre le petit déjeuner. Puis Jules dit, bon, je vais voir ma femme. Elle s'est dit, moi, Mathieu. Et quitte la cuisine pour aller chacun dans leur chambre voir leur malade. Mathieu est toujours au lit. Il est réveillé, mais reste allongé. Alexis va vers lui. Tu vas mieux? Mathieu lui dit. Oh, j'ai mal à la tête. Qu'est-ce que j'ai fait? Alexis lui dit. Tu te souviens plus? Non, ça vaut mieux. Mathieu demande. Pourquoi? Alexis lui dit. Parce qu'il ne faut pas chercher à savoir les choses. Mathieu lui dit. Je ne vois pas. Alexis lui dit. Ils ont passé la soirée dans cette soirée-là. Nous n'aurions pas dû y aller. Mathieu lui demande, c'est toi qui m'as ramené? Oui, avec l'aide de Gilles et Frédéric. Ils étaient là. Oui, heureusement. Parce qu'autrement, nous étions perdus. Raconte. Et il lui dit, plus tard, compose-toi. Et il s'assoit. Au bout d'un moment, ils entendent du bruit dans le couloir, comme une personne qui souffle. Alexis va voir. Il voit dans le couloir Jules, une cuvette à la main. Il est dans tous ses états. Que se passe-t-il? Jules répond, ma femme ne fait que vomir. Je ne sais pas ce qu'elle a. Mais si, entre dans la chambre de Jules. Vois, allongé, Marie, le visage défait, les cheveux en désordre. Elle semble souffrir. Allez, s'il demande. Qu'avez-vous? Elle lui dit faiblement, je sais pas, j'ai mal au ventre, j'ai soif, je souffre. Et s'il voit qu'elle a peine la force de parler, il dit à Jules qui est près de lui, il faut appeler le médecin. Elle lui dit, non, pas le médecin, jamais. Mais le médecin, il faut bien vous aider, le médecin pourra vous guérir. Non, on ne peut pas le faire. Il lui dit, la tisane, c'est mieux. C'est tout ce qui est mieux. C'est très naturel. Il lui dit, mais la tisane ne peut pas vous guérir. Ce n'est que de l'herbe. Je lui dis, laissez faire. Vous, les gens de la ville, vous n'y connaissez rien. Allez. Alexis lui dit, bien, et il les laisse. La matinée passe et l'état de Marie ne s'améliore pas. Elle a toujours des douleurs au ventre. Lui, Mathieu, va mieux et s'est levé à midi pour prendre le repas à la cuisine avec Jules. Jules a préparé pour ses invités un repas et pour sa femme une tisane. Il mange la cuisine en silence. Jules dit, il ira sûrement mieux demain. Dans l'après-midi, elle ne va pas mieux. Elle et Mathieu restent dans leur chambre. Ils n'osent pas bouger. Dans la cour, une voiture par la fenêtre. Il voit que sort de la voiture André, Henri et des garçons. Il se dit, ça c'est pour ce qui s'est passé hier au soir. Tant pis, on attend. Sonnerait à la porte. S'ouvre. Ils entrent tous. Discussion dans le couloir, des pas dans les escaliers. Des pas dans le couloir. Frappe à la porte. Entrez. C'est Jules qui entre et leur dit, on vous demande, il y a des jeunes gens qui veulent vous voir. Mathieu sort de la chambre et suit Jules. Jusqu'au rez-de-chaussée. Devant l'entrée, il y a des jeunes gens. André s'approche des deux amis et dit, salut, je suis venu au sujet des dégâts que vous avez faits chez moi. S'il dit, nous n'avons rien à vous payer. André lui dit, et les bouteilles cassées, le verre, mes amis blessés. S'il lui dit, c'était de la légitime défense. André lui dit, de la légitime défense? T'as la bonne, de bonne, toi. Regarde Jules et lui dit, je l'invite chez moi, et monsieur casse tout. Il faut qu'il me paye les dégâts. Il en a fait. Il demande à Etsy, qu'est-ce que c'est cette histoire? Etsy lui dit, j'ai défendu mon ami. Il voulait... Il avait un livré à mort. André lui dit, nous sommes pour rien si ton ami ne supporte pas l'alcool. Etsy lui dit, vous l'aviez enivré, c'était pour violer. André fait... lui dit, furieux, répète-moi ça, oui c'est vrai. André se tourne vers ses amis et dit, regardez-moi ce minus, il me traite de tous les vices, et la voiture que tu as volée. Et il dit, on est obligé, c'est de se dépêcher de partir, et on a pris la voiture, vous vouliez nous casser la figure. André lui dit, c'était normal, après tout ce que vous avez fait, vous étiez... vous avez tout cassé, et puis j'étais témoin. Henri, à qui vous avez pris la voiture, volé la voiture, va porter plainte. Etsy regarde Henri et dit, je me défie de le faire. Je dirai ce qu'il m'a proposé. André regarde Henri et demande, tu as proposé quoi? Henri lui dit, rien. André lui dit, salope va. Vous allez me le payer. Etsy dit, sûrement pas. André le fait. Nous verrons. André dit, laisse, va, je paierai, moi. André le regarde et lui dit, pourquoi? Tu as peur qu'ils disent ce que tu lui as proposé, salaud, et moi? Henri lui dit, laisse tomber, je paierai les dégâts. Et en plus, tu ne vois pas que ce sont des mineurs, lui et lui? Allez, laisse, on s'en va. André dit, vous le paierez tous les deux. Henri le prend par le bras. André se dégage, laisse-moi. Et ils sortent tous de la maison. Ils entrent dans la voiture et partent. Jules demande à Alexis, qu'est-ce que c'est cette histoire? Alexis lui dit, rien, des enfantillages, le fils de papa, à papa. Je lui dis, j'ai la charge de vous surveiller, je veux plus d'histoires comme ça. Des casses, des vols de voitures. Alexis lui dit, c'est tout pour rien. Je lui dis, je veux plus que vous revoyiez ces gens. Je te promets, de toute façon, les vacances vont être finies. Et ils retournent à leur chambre. Jules va retrouver sa femme, qui est toujours souffrante. Elle est si triste et se dit que les Perret vont garder un très mauvais souvenir d'eux. Il va penser que ce sont des jeunes pas bien du tout. La journée se passe tristement, il fait de plus en plus chaud, même les oiseaux ne veulent plus. La campagne a un silence de mort, pas de bruit, pas de gens dehors. Même les insectes, on ne les entend plus. On dirait qu'il n'y a plus de vie. Marie ne se rétablit pas. Bien au contraire, elle dépérit, maigrit beaucoup. Prend un teint grisâtre, a de la fièvre et ne garde rien. Elle a mal au ventre. En sueur, a toujours froid, soif. Jules ne sait que faire, surtout que lui aussi se sent fatigué. Et la nourriture le dégoûte. Un matin, après une mauvaise nuit, où sa femme n'a fait que de vomir une espèce de bile blanche, au petit déjeuner, qu'ils essayent de prendre, il leur dit, ma femme ne va pas bien, ne va pas bien du tout. Les tisanes ne lui font plus rien. Ils n'ont plus de guérisseur dans le village. Il est mort. Il faut aller chercher le médecin. Est-ce que vous pouvez y aller et lui dire venir? Mon téléphone, je ne sais pas pourquoi, mais il ne marche pas. Et ici, il lui dit, vous, bien sûr, où habite ce médecin? Je lui dis, c'est simple, il est derrière la maison qui est près de l'église. C'est le docteur Perrier. On n'aime pas beaucoup parce qu'il est le fils du guérisseur. Vous vous rendez compte? Le fils du guérisseur qui devient médecin. C'est comme trahir ses parents. Hieri, Alexis voit son bol et se lève. Bien, j'y vais. Mathieu lui dit, attends, je vais avec toi. Lui aussi termine son bol. Je lui dis, bon, moi, je vais aller voir ma femme, comme ça, pour voir si elle va pas mieux. Et puis, je me sens pas bien, je suis comme elle. J'ai des envies de vomir. Et il lui dit, faudra peut-être aussi en parler au médecin. Allez, on y va. Et ils sortent de la maison. Dehors, il fait malgré l'heure matinale déjà très chaud. Il n'y a pas de vent. Le ciel est bas, gris. On n'entend rien. On dirait que tout est mort. Les deux garçons marchent sur la route. J'ai l'impression que l'air va leur tomber dessus. Comme une lourde couverture, bien chaude. Mathieu dit, qu'est-ce qui fait pénible? Je suis déjà fatigué, j'ai soif. Maïssi lui dit, oui, on est déjà tout transpirant. C'est pas naturel, ce temps. Au bout d'un quart d'heure de marche, fatigante, ils n'ont rien rencontré. Pas une bête, ils arrivent au village. Le village semble mort. Vont à la maison qui est près de l'église. C'est une petite maison au fond d'un petit jardin. Les murs sont crépus en rose, les volets en vert et à deux étages, mais elle est très petite. Le jardin a des fleurs, de petites fleurs comme des pensées, ce genre de fleurs qu'aiment bien les vieilles dames. C'est la mère du médecin qui vit avec lui. Elle est veuve et ne fait rien. Elle est la maman de son petit et lui le petit de sa maman. Du temps du père, ils étaient tous les deux tremblants de peur, de ses colères, parce qu'ils buvaient beaucoup. C'est la mère qui a voulu absolument que son fils fasse médecine. Parce que monsieur le curé lui disait que guérisseur, aux yeux du Dieu, ce n'était pas bien. Parce que ce sont des charlatans et qu'on est dans un pays civilisé. Le père a hurlé lorsqu'il a appris que son fils voulait faire médecine. Mais sa femme lui a fait comprendre qu'il gagnerait plus peut-être que lui et qu'il pourrait se faire des entrées à l'hôpital de la ville voisine. Mais pour lui, ça a été la honte. Il n'osait plus parler à son fils. Il n'osait plus parler de son fils aux gens du village. Qui eux regardaient le fils comme s'il avait trahi le père. Un mauvais fils, quoi. Maintenant, on va très rarement le voir. Parce qu'il a trahi son père et qu'il est médecin. On n'y va que dans des cas extrêmes, en lui disant « Votre père aurait fait ça ou ça, donné ceci ou cela. » On vous appelle parce qu'il n'y a plus de guérisseur. Et si votre père avait été là, enfin, on aurait aimé, c'est que vous preniez sa suggestion. Ça aurait été bien pour le village, parce que maintenant, il n'y a personne pour nous soigner, etc., etc. La grosse humiliation pour ce pauvre médecin. Pour ce qui est de la mère, elle non plus, elle n'est pas épargnée. On ne la reçoit pas, on ne lui parle plus, ou peu, ou pour la plaindre. Ah, ma pauvre amie, je vous plains avec un fils comme lui qui a trahi son père. Comme de vous devez être malheureuse, etc. Elle n'est pas malheureuse à cause de son fils, mais des gens. La pauvre femme ne va qu'à la messe le dimanche et les autres jours, elle reste chez elle à faire son jardin et le ménage de son fils. Elle fait aussi les courses. Ils vivent petitement parce qu'il n'y a presque pas de patients. Je n'ai pas dit clients comme c'est la mode, mais patients, c'est mieux. Voici l'histoire de ce pauvre médecin sur le portail il y a sa plaque en métal doré astiquée une fois par semaine par la mère sur nos portails.
Oui,
dit une voix à l'interphone. Et s'il lui dit, c'est pour voir le médecin, madame. Elle lui dit, bien, vous pouvez entrer. Entrez. La porte s'est refermée derrière eux. Sur un petit chemin de gravier, où poussent des fleurs et vont jusqu'à l'entrée de la petite maison. La porte d'entrée est peinte en vert. Elle a une forme arrondie sur le haut. Et à moitié de la porte, il y a des verres de couleur, des petits carreaux de verres de couleur. Sonna à la porte. La porte s'est ouverte. C'est une femme, grande main, cheveux en chignon gris, visage osseux, triste mais pas sévère. Elle porte une robe toute simple, noire. Elle leur dit « Entrez !» Ils entrent, elle ferme la porte. L'heure d'entrée est noir et blanc. Il y a des escaliers en bois ciré en face de l'entrée. Et il y a des portes aussi dans l'entrée. Deux portes, une à droite et une à gauche. Les carreaux de couleur avec les rayons du soleil donnent des reflets de vitrail très colorés et rend l'entrée irréelle. Elle leur dit, vous n'avez pas rendez-vous, et si Didi, nous sommes en vacances ici, nous sommes de Paris. Elle leur dit, les Parisiens, ça se voit, vous voulez voir le médecin, Et qui lui dit, oui, c'est pour qu'il vienne chez les Perret. Et lui fait, bien, venez. Et ouvre une porte, entrez. C'est un salon campagnard avec une fenêtre et qui donne à l'arrière de la maison. Chaise empaillée, fauteuil en tissu, table basse en bois clair, il y a un confiturier. Il leur dit, asseyez-vous, mon fils va venir vous voir. Merci madame. Elle sort. Il s'assoit. Mathieu dit, j'ai soif. La porte en face est ouverte. Apparaît un jeune homme, dans les 27 ans à peu près, les grands minces, cheveux épais blonds, le regard doux, yeux bleus, et très bien de sa personne. Il a des petites oreilles bien faites et petites mains aussi. Par-dessus son pantalon beige, une blouse blanche qu'il a laissée ouverte. Il leur dit, vous m'avez demandé, je vous écoute. Le garçon se lève. Aïtsi lui dit, bonjour monsieur, docteur, je suis venu, c'est pour que vous puissiez venir voir chez les Perriers. Chez les Perret, ils ne se sont pas bien depuis quelque temps, surtout la mère. Elle a mal au ventre, vomit, maigrit. Elle tremble, elle a de la fièvre. Et son mari aussi commence à être comme elle. Le médecin lui dit, vous êtes de la famille? Non, des personnes qui sont en vacances chez eux. Le médecin lui dit, ça se voit. Bien, je vais avec vous. En ce moment, il y a une épidémie de diarrhée bizarre. J'ai envoyé des prélèvements pour faire des analyses et j'aurai le résultat bientôt. Mais je crois qu'il faut s'attendre au pire. Allez, attendez, je reviens. Il revient habillé d'une veste blanche. Et porte à la main une mallette de cuir noir. Il leur dit, venez, nous y allons. Et ils sortent de la maison. La femme leur court et demande, tu vas où? Tu vas chez eux? Le médecin se retourne et lui dit, oui. Mère, elle lui dit, fais attention à toi, mon chéri. Oui, à tout de suite. Et ils sortent du jardin. Thank you. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La plante du diable, production mise en scène Julien Jean-Pierre.